afin que cela subsiste par celui qui appelle. Romains chapitre 9, versets 1 à 13, « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, « En Isaac sera nommé pour toi une postérité », c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse, « Je reviendrai à cette même époque, et Sarah aura un fils. » Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent de pas encore nés, et ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, « L'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. » Le cœur de Paul et les véritables enfants de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais partager un message concernant le cœur de l'apôtre Paul qui était profondément affligé parce que son propre peuple ne croyait pas en Jésus et qui désirait pourtant ardemment leur salut. En tant que juif, Paul désirait plus que quiconque que ses propres compatriotes soient sauvés. Jésus aussi est venu sur cette terre dans la lignée des Juifs selon la chair, et il est né comme notre Sauveur dans une famille d'ancêtres juifs. Paul était un Juif qui a fait l'expérience du salut après avoir rencontré Jésus. En regardant à partir du verset 6 du texte d'aujourd'hui, Paul savait clairement que l'on ne peut devenir enfant de Dieu que par la foi qui croit en la parole de Dieu. Il prêchait l'Évangile avec zèle, mais comme son propre peuple demeurait dans un état sans salut, il transmet ce message avec un cœur très affligé. Romains chapitre 9, du verset 6 jusqu'au dernier verset, traite de la question de savoir qui sont les véritables peuples de Dieu. Le salut ne s'accomplit pas par la chair, mais il est accompli pour ceux qui croient à la parole de la promesse de Dieu. Les versets 6 à 13 disent « Que tous ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas Israël, ni tous ne sont enfants parce qu'ils sont la descendance d'Abraham. » La Bible déclare « En Isaac sera nommé pour toi une postérité » Romains chapitre 9, verset 7. La distinction entre les enfants de la chair et les enfants de la promesse. C'est-à-dire que ceux qui sont les enfants de la chair ne sont pas les enfants de Dieu, mais les enfants de la promesse sont comptés comme la véritable descendance. La parole de promesse mentionnée ici est cette parole « Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils » Romains chapitre 9, verset 9. Abraham avait deux femmes et il y avait une promesse selon laquelle Dieu donnerait un enfant par Sarah, l'épouse principale. Cependant, comme le temps passait et qu'aucun enfant n'apparaissait, Abraham devint impatient et tenta d'obtenir un enfant par la servante Agar. Sarah organisa cela et ainsi un fils naquit. Mais plus tard, bien que Sarah eût vieilli, son ventre enfla selon la promesse et elle enfanta un enfant. Ismaël et Isaac étaient tous deux les fils biologiques d'Abraham, mais Dieu n'a établi que l'enfant de la promesse selon la volonté de celui qui appelle, et non par des méthodes humaines. La Bible dit, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Romains chapitre 9, verset 8. Dieu a promis un fils, et seul le fils né de Sarah a été reconnu comme le véritable descendant. Dieu n'a pas reconnu l'enfant qui était en dehors de la promesse. Cette déclaration selon laquelle seuls les enfants de la promesse sont comptés comme la descendance est très importante pour nous. Le salut selon la parole de l'Alliance. Devenir le peuple de Dieu ne se produit pas simplement en disant aveuglément « Je crois ». Dieu avait déjà promis dans l'Ancien Testament qu'il enverrait le Messie, et il a envoyé Jésus selon cette promesse. Jésus-Christ est né à l'époque du Nouveau Testament en prenant un corps par Marie selon la promesse de la parole. Il a pris sur lui les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste, il est mort sur la croix et il est ressuscité pour devenir notre Sauveur. Lorsque nous croyons en ce Jésus qui est venu selon la promesse, nous devenons enfin de véritables enfants de Dieu. Le salut ne vient pas d'une confession aveugle disant « Jésus est mon Sauveur ». Nous devons croire sans faute selon la parole de l'Alliance. Comme il est dit, « En Isaac sera appelé pour toi une descendance, seuls les enfants de la promesse sont reconnus ». Ce fait est expliqué en détail dans les versets 9 à 11. Non seulement la promesse donnée à Sarah, mais aussi l'événement où Rebecca conçut des jumeaux par Isaac est mentionné. Avant même que les enfants ne soient nés et qu'ils n'aient fait ni bien ni mal, Dieu a établi son dessein selon l'élection. Cela est afin que cela subsiste non par les œuvres, mais par celui qui appelle. Jacob et Ésaü, la souveraineté de celui qui appelle. Dans Genèse chapitre 18, verset 10, l'ange dit à Abraham, l'un d'entre eux dit « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Les étrangers qu'Abraham avait accueillis étaient en réalité Dieu lui-même. Dieu a promis qu'il y aurait un fils pour Sarah l'année suivante. Parce qu'il a promis par la parole, nous appelons cela une alliance. Sarah conçut exactement selon la promesse et enfanta Isaac. Plus tard, lorsque Rebecca, la femme d'Isaac, était enceinte, la Bible le rapporte ainsi. « Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et ils n'eussent ne fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü ». C'est ici que la doctrine de l'élection de Calvin a pris son origine. Certains pensent que Dieu avait déjà aimé Jacob et haï Ésaü lorsque les enfants étaient encore dans le sein maternel. Calvin a souligné la souveraineté absolue de Dieu, affirmant que toutes choses viennent du Seigneur et retournent au Seigneur. Cette affirmation est également correcte, mais le cœur des versets 11 et 12 réside dans le fait que le dessein de Dieu ne dépend pas des œuvres humaines, mais uniquement de celui qui appelle. Qui Dieu appelle-t-il et sauve-t-il? Qui reçoit des bénédictions comme Abraham? Ce sont précisément ceux que Dieu appelle. Aux yeux de Dieu, il y a deux types de personnes, ceux qui sont comme Ésaü et ceux qui sont comme Jacob. Ésaü est une personne en bonne santé, dotée de talents remarquables, et parfaitement préparée à vivre dans ce monde. Il est intelligent et sage, si bien qu'il peut bien vivre par lui-même sans nécessairement dépendre de Dieu. Par conséquent, une telle personne ne cherche pas Dieu, car elle fait tout par sa propre force. Accepter l'Évangile avec un cœur humble. D'un autre côté, il y a une personne comme Jacob. Il est faible, quelque peu rusé, et c'est une personne ayant de nombreux défauts qui sait aussi mentir. Parmi ces deux personnes, qui Dieu appellerait-il? Qui s'appuierait davantage sur Dieu et croirait en lui? Qui en effet accepterait humblement ce fait que Dieu a envoyé son Fils pour être baptisé, pour être suspendu à la croix et ressuscité, devenant ainsi notre Sauveur? Dieu appelle les faibles et les fait se tenir dans la bénédiction devant lui. Jacob est précisément le modèle de cet appel. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit « J'ai aimé Jacob ». Dieu a décidé de sauver tous les hommes du péché et de les faire devenir son peuple, mais beaucoup rejettent cela. Les personnes comme Ésaü disent « Je peux bien vivre même sans Dieu » et refusent sa main. Jésus invite ceux qui sont fatigués et chargés, mais ceux qui se croient parfaits ne le cherchent pas. Même s'ils croient, ils finissent par croire à leur propre manière. Cependant, ceux qui s'appuient sincèrement sur Dieu comprennent à travers la Bible. Ah, voilà ce qui avait été promis dans l'Ancien Testament. Il avait promis d'envoyer Jésus-Christ comme la descendance de la femme pour briser la tête de Satan et ôter nos péchés. Ils croient que Dieu est venu comme Emmanuel à travers le corps d'une vierge. Ils croient à l'accomplissement de la promesse, c'est-à-dire que Jésus a pris sur lui les péchés de l'humanité en étant baptisé par Jean à l'âge de 30 ans. l'accomplissement de la loi et les erreurs de la doctrine humaine. Cela est lié à la loi sacrificielle du Lévitique. Lorsqu'un pécheur ou un sacrificateur imposait les mains sur l'offrande sacrificielle, le péché était transféré et cette offrande mourait à la place de la personne. Nous croyons que Jésus est mort pour nous exactement selon cette loi. En acceptant cette parole de l'Alliance, nous devenons enfants de Dieu. Paul désirait ardemment que son propre peuple obtienne ce salut, mais les Juifs n'ont pas cru. Pourquoi ? Parce qu'ils tiraient une grande fierté de l'observance de la loi et du fait qu'ils étaient les descendants directs d'Abraham. Ils pensaient « Nous sommes déjà le peuple de Dieu, alors pourquoi avons-nous besoin d'un sauveur ?» Seuls ceux qui sont pauvres en esprit cherchent un sauveur. Parce qu'ils avaient confiance en eux-mêmes, ils ont rejeté le fait que Jésus avait déjà sauvé l'humanité par son baptême et son sacrifice. Dieu n'a reconnu qu'Isaac, l'enfant de la promesse, et non l'effort humain. Même parmi les enfants d'Isaac, il a souverainement choisi Jacob. C'est un fait évident que Dieu est venu sur cette terre, qu'il a été baptisé et qu'il a été suspendu à la croix. Il appelle tout le monde, que celui qui le veut vienne et reçoive la rémission des péchés. Cependant, ceux qui répondent à cet appel sont les Jacob. Croire signifie s'appuyer. Jacob symbolise la dépendance totale envers Dieu, tandis qu'Ésaü symbolise la confiance en soi. Les limites de la tradition religieuse. Beaucoup disaient qu'ils croient en Jésus, mais croire simplement que Jésus est mon Sauveur qui est mort pour moi ne signifie pas croire selon la parole. Ce n'est pas la vérité de la Bible, mais simplement une religion. L'Ancien Testament est la promesse de Dieu, et le Nouveau Testament est le récit de son accomplissement. Jésus est venu selon la loi établie dans l'Ancien Testament, et il a ôté nos péchés. Récemment, en traitant des débats théologiques complexes comme le Credo de Nicée, j'ai ressenti une certaine fatigue. Il serait bien plus facile de simplement prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, je dois traiter ses racines. Dans le volume 1, j'ai montré l'essence de cet évangile. En préparant le volume 2, j'ai profondément réfléchi. Le catholicisme mélange souvent diverses traditions avec la foi pour créer sa propre religion. Alors, qu'en est-il du protestantisme ? Malheureusement, comme les traditions qu'il critique, beaucoup ne croient qu'au sang de la croix. Je me suis préoccupé de la manière de leur faire comprendre l'évangile de l'eau et de l'esprit. Puisqu'il existe des milliers de dénominations, j'ai l'intention d'examiner les racines des principales dénominations comme le calvinisme, d'en souligner les avantages et les inconvénients, et de présenter le véritable évangile. Le problème du péché qui demeure dans la théologie. Je veux examiner comment ceux qui suivent le calvinisme traitent le problème du péché. Ils essaient d'obtenir la rémission des péchés en croyant en Jésus, mais le problème du péché reste non résolu. Ils ne sont pas libérés du péché jusqu'à leur mort. On leur enseigne que le péché originel est remis au baptême, mais pour les péchés commis quotidiennement, ils doivent offrir des prières de repentance et poursuivre la sanctification. Cela conduit à un doute constant. Suis-je vraiment choisi ? Ils sont enfermés dans la doctrine et ne peuvent pas trouver le chemin vers la véritable rémission des péchés. La conclusion est que de telles doctrines ne peuvent pas enlever le péché. Lorsqu'on compare cela avec l'évangile de l'eau et de l'esprit, la différence devient claire. Qu'est-ce que cet évangile ? C'est le fait que le Seigneur a pris sur lui tous les péchés de l'humanité une fois pour toutes par Jean-Baptiste et qu'il a porté ses péchés jusqu'à la croix. Au moment où nous croyons cela, nous sommes complètement libérés du péché. Nous pouvons tomber parce que nous sommes faibles, mais nous n'avons pas besoin de demander de nouveau le pardon pour les péchés commis quotidiennement afin d'être sauvés. Nous avons obtenu la rémission éternelle des péchés une fois pour toutes. Hébreux chapitre 10 dit « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités ». Hébreux chapitre 10 verset 17. Dans le calvinisme, ce problème ne se termine jamais, car il s'agit d'une doctrine construite sur des pensées humaines et non sur l'alliance de Dieu. Ils enseignent que seul le péché originel est remis et que les péchés actuels doivent être confessés à chaque fois. Je veux souligner ceci. La Bible dit ceci, mais vos doctrines disent cela. La restauration de la vérité et le soutien du ministère. Lorsque j'explique comment Dieu a promis dans l'Ancien Testament et comment il a sauvé dans le Nouveau Testament, les gens comprendront. Ah, voilà le véritable évangile. Beaucoup ont cru pendant si longtemps à de fausses doctrines qu'ils pensent avoir raison. Parce que tant de personnes croient de la même manière, elles ne savent pas ce qui est faux. Nous devons d'abord leur montrer la réalité de ce qu'ils croient actuellement. Je démontre objectivement et j'organise la vérité de la manière dont le Seigneur nous a sauvés. On dit que bien commencer est à moitié fait, et j'ai déjà achevé environ 70%. Si je fournis encore 30% d'efforts supplémentaires, j'achèverai cette tâche importante. Mon cœur se tourne toujours vers les collaborateurs de l'équipe de littérature qui se consacrent à cette mission littéraire. Je crains qu'ils ne dorment pas ou ne mangent pas correctement. Car à un âge avancé, sauter des repas ou manquer de sommeil rend facile de tomber dans la léthargie et la dépression. Moi aussi, je fais de mon mieux pour prendre soin de ma santé afin d'achever cette mission. Je m'éloigne des aliments qui sont mauvais pour mon corps et je ne mange que ce qui est bénéfique avec modération. À cause de la santé de mes reins, je ne mange qu'une quantité déterminée de fruits ou même de noix. Je me concentre sur cette tâche de toutes mes forces. J'ai même subi une opération des yeux pour remplacer mes lentilles. Au début, c'était bien parce que je pouvais bien voir, mais maintenant je dois mettre des gouttes oculaires chaque jour pour éliminer les substances étrangères. J'ai réalisé combien la gestion est importante. Notre corps se détériore dès que nous le négligeons. Rien de ce qui passe par les mains humaines n'est éternel. Je souffre également d'acouphènes. Il y a quelques années, cela ressemblait au bruit d'un essaim de cigales criant à l'intérieur de mes oreilles et j'ai crié au Seigneur de me sauver. Lorsque je suis fatigué, ce son revient encore. Lorsqu'il se superpose à l'inquiétude, il devient difficile de dormir. Chers tous, vous devez savoir que croire en Jésus et obtenir le salut s'accomplit uniquement par la parole de l'Alliance, tout comme ce fut le cas pour Israël. Dieu a promis le salut par sa parole et selon cette promesse, il est venu sur cette terre et a porté nos péchés. Il a reçu le baptême et a pris sur lui nos péchés. Il a subi le jugement à notre place sur la croix et il nous a sauvés par la résurrection. Lorsque nous croyons ces faits accomplis selon la parole, nous obtenons le salut. C'est ainsi que nous devenons des descendants d'Abraham par la foi. Dire « Je crois en Jésus » de la croix, simplement par sa propre volonté, sans tenir compte de la promesse de Dieu, n'est pas le véritable salut. Regardez Jacob et Ésaü. Ésaü a vécu selon sa propre voie et n'a pas cru à la parole de l'Alliance. Par conséquent, il n'est pas devenu un descendant d'Abraham et est resté sans salut. Prêcher l'évangile originel au monde entier. Aujourd'hui, il y a environ 2,2 milliards de personnes qui professent croire en Jésus. Cela inclut les catholiques, les protestants, les mormons et tous les autres. Bien que cela représente un quart de l'humanité, ceux qui croient selon la parole de Dieu sont extrêmement peu nombreux. Alors je veux leur dire ceci. Ceci est la doctrine élaborée par vos théologiens. Cela a-t-il réellement ôté vos péchés? Jamais. Mais si vous croyez à l'évangile de l'eau et de l'esprit, les péchés sont-ils ôtés? Oui, ils sont clairement ôtés. Je veux transmettre ce principe de manière claire. Prêcher cet évangile est une tâche difficile. Tout comme l'abus de médicaments crée une résistance, ceux qui ont cru en Jésus à leur manière pendant longtemps ont développé une résistance à l'évangile véritable. Ils le rejettent en disant « Notre dénomination enseigne aussi de croire en Jésus ». Nous pouvons aussi aller au ciel à notre manière. Cette façon de penser bloque le véritable évangile. J'ai longtemps réfléchi à savoir si cela serait possible. Mais comme le dit le proverbe, pour attraper un tigre, il faut entrer dans sa tanière. J'ai décidé de prendre les théologies qu'il considère comme des règles d'or et d'en montrer la réalité. Vous croyez de cette manière, mais que dit réellement la Bible? Une vie consacrée à l'évangile jusqu'à la fin. Selon leur doctrine, il n'existe aucun moyen d'effacer les péchés commis dans le présent. Ils se sentent sauvés un instant, puis confus l'instant suivant, comme s'ils ne l'étaient pas. Puisqu'ils pêchent quotidiennement, ils restent pécheurs, et c'est leur destin de ne pas échapper au péché jusqu'à leur mort. Mais notre Seigneur est différent. Jésus-Christ nous a sauvés éternellement par un seul baptême et une seule mort sur la croix. Au moment où nous croyons ce fait, tous les péchés, depuis ceux qui sont au plus profond de nos cœurs jusqu'aux actions extérieures, disparaissent une fois pour toutes. Nous louons ce salut une fois pour toutes et accomplissons l'œuvre de Dieu jusqu'au jour où nous nous tiendrons devant le Seigneur. Certains demandent si cela conduit à l'indulgence personnelle. Mais où une personne concentrée sur l'œuvre de Dieu trouverait-elle le temps pour cela? Je traite ces points en détail. J'exhorte ceux d'entre vous qui sont âgés. Faisons de notre mieux jusqu'à ce que le Seigneur nous appelle. Si votre corps se détériore, allez à l'hôpital et recevez de l'aide. Ce n'est pas parce que vous pensez « j'ai tout accompli, je peux partir maintenant » que cela se produit ainsi. Abandonner la vie n'est pas juste devant Dieu. Nous devons prendre soin de notre corps et trouver l'œuvre que nous seuls pouvons accomplir, c'est-à-dire en recevant de la force par la prière et en accueillant les autres avec un cœur large. Moi aussi, je ne suis pas en bonne santé. Parfois, ma vue est faible et je souffre d'acouphènes. Mais n'est-ce pas bien mieux que lorsque je ne pouvais pas voir du tout, je porte des appareils auditifs et il m'arrive de manquer certains mots, mais je suis reconnaissant de pouvoir encore entendre et parler. Lorsque les sons résonnent et deviennent confus, j'essaie de comprendre en regardant la forme des lèvres de l'autre personne. Puisque je peux transmettre mon cœur, cela suffit. J'espère vivre comme un instrument du Seigneur jusqu'à la fin. Espérance pour une nouvelle moisson. Ne désespérons pas, mais vivons avec vigueur par la prière. Nous avons tant de travail à accomplir. Le monde change rapidement et une montagne de travail nous attend. Nous devons diffuser l'application de l'Évangile dans toutes les nations et développer des services de langue des signes par intelligence artificielle pour les malentendants. Ne devrions-nous pas achever cette mission et aller vers le Seigneur avec joie? Être jeune ne garantit pas une longue vie. Si le monde s'effondre, nous partons tous ensemble. Nous ne savons pas quand ce jour viendra, mais puisque le monde ne s'est pas encore terminé, nous devons simplement faire de notre mieux aujourd'hui. Il faut 20 ou 30 ans pour qu'une âme grandisse correctement. Vous avez grandi ainsi vous aussi. C'est pourquoi je me suis méfié d'une simple augmentation des chiffres. Parce qu'établir correctement une seule âme est à ce point difficile et précieux. Tout comme Paul désirait ardemment le salut d'Israël, nos cœurs sont les mêmes. En regardant YouTube ces jours-ci, il y a vraiment beaucoup de Juifs qui sont sauvés. Lorsque j'entends leur confession, je le sais. Ah, cette personne a vraiment reçu le salut. Les Juifs sont différents des païens, ils connaissent la loi sacrificielle au plus profond d'eux-mêmes. Il leur suffit de réaliser que Jésus est le Messie prophétisé dans l'Ancien Testament. Puisqu'ils comprennent déjà le fondement légal selon lequel Jésus a pris sur lui nos péchés, ils parviennent au salut au moment même où ils croient. Cependant, si des païens qui ne connaissent pas la loi sacrificielle disent qu'ils vont simplement croire uniquement en la croix, cela devient une foi qui manque l'essentiel. À l'avenir, de nombreux Juifs et beaucoup de ceux qui croient actuellement en Jésus réaliseront le véritable évangile et reviendront. Dieu agira certainement. J'espère que nous prendrons tous bien soin de notre corps et vivrons chaque jour selon la direction du Seigneur. Ne vous sentez pas coupable parce que vous êtes insuffisant ou parce que vous n'êtes pas bon dans quelque chose ou parce que vous vous sentez comme un fardeau. Alors vivons avec assurance et audace. Compris? Merci, je vais conclure le message.